Voici les titres du journal.
Les districts de Saint-Maurice et de Monthey organisent un atelier gratuit pour apprendre à voter correctement. Rendez-vous ce jeudi à la maison de commune à Gonoise. La ville de Vevey souhaite s'adapter au vieillissement démographique et pour ce faire, elle organise un atelier participatif le 16 novembre prochain pour s'adapter aux besoins de ses aînés. La semaine de la vaccination commence aujourd'hui partout en Suisse. L'occasion pour le président de la Confédération, Guy Parmelin, de rappeler aux Vaudois toute l'importance de cette démarche. Et puis les Suisses devront décider s'ils acceptent ou non les modifications à la loi Covid le 28 novembre prochain. Détail dans ce journal. Et enfin, en basket, le BBC Monthey-Chablais court toujours après une première victoire en championnat cette saison, même s'il s'en est fallu de peu samedi. Et en hockey sur glace, les Uns, Villars et Monthey ont offert un beau cadeau hier à leurs jeunes joueurs.
Pour la météo, un temps bien ensoleillé pour cet après-midi et pour demain, la météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Quentin Frey. Bonjour Quentin.
Bonjour. Élections, votations, enveloppes de toutes les couleurs, difficile de s'y retrouver pour certaines personnes. Les districts de Saint-Maurice et de Monthey comptent bien y remédier. Jeudi, à la maison de commune de la cité à Gonoise, un atelier sera proposé afin de mieux comprendre tout le processus de vote. Il est destiné principalement aux personnes en cours de naturalisation ou qui le sont depuis peu. Bien évidemment, toute personne intéressée peut y participer. L'un des organisateurs et municipal de Saint-Maurice, Fabien Lafarge, nous détaille le déroulement de la soirée.
On a décidé d'organiser la soirée en trois postes. Sur chaque poste, il y aura deux élus qui seront là pour donner des explications. Le premier poste sera consacré aux élections communales, donc on aura des listes fictives avec des noms fictifs et puis on va expliquer comment on peut voter, comment on peut ajouter ou enlever des noms, qu'on peut faire. Et puis on aura ensuite un exemple de votation cantonale et puis un exemple de votation fédérale. Et puis sur ces trois postes, les gens vont suivre tout le processus de l'ouverture du matériel de vote à l'analyse de ce qu'on a dedans jusqu'à finalement à l'urne où les gens glisseront leur bulletin dans l'urne. Je rassure bien sûr, ça sera fictif. Hein. Ces documents sont tous des copies.
Nommé Enfin, je vote, cet atelier est organisé pour la seconde année consécutive. Une nouvelle édition qui en appelle d'autres, c'est en tout cas le souhait de Fabien Lafarge.
Nous, on veut vraiment que ce soit quelque chose qui ait lieu chaque année. Et pourquoi pas ensuite l'ouvrir, hein. Pourquoi pas coupler ça aux promotions civiques, par exemple? Parce que même si on apprend à l'école le processus législatif, électoral, c'est quand même pas facile de voter. Et donc, on peut imaginer que cet événement qui revient chaque année à la même période soit ancré dans l'esprit des gens et puis que les gens sachent tout simplement qu'il y aura ça et qu'ils pourront y aller.
Les inscriptions se font via les services d'intégration des communes jusqu'à aujourd'hui. L'atelier participatif débutera jeudi à 19h30. C'était un sujet réalisé par Thierry Nicolet.
Le canton de Vaud veut encourager ses citoyens à choisir un véhicule moins polluant ou électrique.
Et le gouvernement a présenté ce matin une série de dispositions incitatives, parmi lesquelles figure le principe de bonus-malus lié aux émissions de CO2, la suppression de la taxe de base pour les véhicules légers et certains allègements spécifiques au milieu professionnel. Ces mesures font partie du projet de révision de la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux, lequel est désormais entre les mains du Parlement. Son entrée en vigueur est espérée pour janvier 2024.
À Vevey, les habitants de 65 ans et plus sont conviés à un atelier participatif.
Celui-ci se déroulera le 16 novembre prochain. Le vieillissement de la population étant exponentiel, des mesures doivent être mises en place. Les explications de Jennifer Zodogom, chargée de projet pour les aînés à Vevey.
La ville de Vevey, on est actuellement dans une démarche participative qui s'appelle « Les villes amies des aînés » qui a été orchestrée par l'Organisation mondiale de la santé. Et le but de cette démarche, c'est d'adapter le territoire des villes aux besoins des aînés, étant donné qu'on sait qu'on va vers une accélération du vieillissement démographique. Et puis du coup, le but de cette démarche participative, eh bien, c'est de mettre en place des actions, des prestations pour adapter les structures de la ville de Vevey en collaboration avec les principaux concernés, c'est-à-dire les seniors. Et puis donc le but de ce forum, c'est de pouvoir réunir la population senior sur une journée à un endroit pour que les seniors puissent partager leurs envies et leurs attentes à travers différents ateliers thématiques.
Chaque citoyenne et chaque citoyen âgé de 65 ans ou plus a reçu un tout ménage l'invitant à participer à cet atelier qui se déroulera à la salle del Castillo de 14h15 à 16h. Gabriela Kempf est la municipale en charge de la cohésion sociale. Elle nous détaille ce qui se fera lors de cet après-midi.
C'est une discussion qui va se faire sous forme d'atelier, donc on attend environ une dizaine de personnes par atelier. Il y a 8 ateliers qui touchent 8 thématiques, donc toutes les thématiques en fait qui font notre quotidien. Et ils seront animés par Prosenectute, qui est vraiment compétent en la matière. Et ce sera encadré par des collaboratrices et des collaborateurs de la ville pour prendre acte en fait de ce qui va être échangé, des propositions. C'est en écoutant les personnes concernées qu'on arrivera à être au plus proche de ce qu'on offre.
Et parmi ces 8 thématiques, on retrouve notamment celle de l'entraide, de la mobilité ou encore de la culture. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à aujourd'hui. Un sujet réalisé par Thierry Nicolet.
Les retours sur les devants de la scène culturelle de l'Élysée ou du MUDAC étaient vraisemblablement attendus.
Ce week-end, plus de 15 000 personnes ont découvert les nouveaux locaux de Photo Élysée et du MUDAC à Lausanne. Le public a donc pu visiter en avant-première, à l'occasion de ces portes ouvertes, les vastes espaces de l'ouvrage situé sur le site de Plateforme 10. Il a également pu admirer l'installation créée spécialement pour l'occasion par l'artiste suisse de renommée internationale Christian Marclay, lequel a mis en valeur l'architecture et les collections des deux musées. Et puis les premières neiges ont déjà fait quelques heureux ce week-end. Glacier 3000 a connu une affluence record pour son début de saison. 5000 amateurs de glisse ont profité des premières pistes ouvertes ce week-end. Par ailleurs, le froid de ces derniers jours permettra l'ouverture des plus longues pistes dans les prochaines semaines. La semaine nationale de la vaccination commence aujourd'hui. Une offensive du Conseil fédéral pour convaincre ceux qui ne sont pas encore vaccinés de le faire. Car malgré une campagne sans précédent, les objectifs ne sont toujours pas atteints. Ainsi, jusqu'au 14 novembre, dans tous les cantons, des événements ont lieu, des concerts, conseils ou interventions avec des experts, par exemple. Plus de 8 ans de personnalités du sport, de la culture, de l'économie et de la politique feront la promotion de la vaccination. Et figure de proue de cette action nationale, le président de la Confédération, Guy Parmelin, de passage dans son canton vendredi. Nous lui avons demandé s'il avait un message pour les Vaudois.
Allez-vous faire vacciner? C'est dans l'intérêt général. Je crois qu'on parle souvent de solidarité. Jamais en ce moment, au moment où on voit en Europe, où on voit aussi en Suisse une remontée très forte des cas, jamais le mot solidarité n'a été mieux qualifié pour expliquer le pourquoi de cette semaine de vaccination. C'est naturellement dans l'intérêt personnel d'abord, mais c'est aussi pour les entreprises, pour l'entourage, pour le pays, pour nous permettre de sortir le plus rapidement possible de cette crise. Et les chiffres sont têtus. Si vous regardez les statistiques, on voit les endroits, les cantons où le taux de vaccination est le plus bas. On voit ce qu'on appelle le taux d'incidence qui est extrêmement élevé. Et un canton, par exemple, comme le canton de Vaud, où le taux de vaccination est haut, et bien le taux d'incidence est extrêmement bas. Donc on voit l'efficacité du vaccin et j'encourage toutes celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas, ça sera dans l'intérêt général et dans l'intérêt du pays.
Voilà, c'était des propos recueillis par nos confrères de LFM. Dans le canton de Vaud, la semaine nationale de la vaccination sera marquée par de nouvelles opportunités de se faire vacciner par une équipe mobile. Un concert gratuit avec notamment Stress et Danitza à Lausanne demain. Un Facebook Live et des entretiens individuels par téléphone sont organisés. 4 séances d'information sont en outre proposées durant la semaine. Une à Lavemorcle, Bretonnières, Salavaux et Grange près Marnant. Et puis institutionnellement, la langue italienne a sa place en Suisse, mais dans la réalité du quotidien, elle est souvent snobée. L'étude du Forum pour l'Italien en Suisse a présenté ce matin à Berne ses conclusions. Le constat est que la troisième langue nationale a une image différenciée. La Suisse a donc mal à son plurilinguisme. À Berne, les explications de Serge Jubin.
L'étude rappelle d'abord que plus de la moitié des italophones, ce sont 8% des Helvètes, vivent hors du Tessin et se trouvent donc en position de minoritaire sans protection particulière, constituant une communauté très fragmentée. L'étude révèle qu'un tiers de la population suisse, qui n'a pas l'italien comme langue maternelle, dispose de compétences partielles en italien. Comme langue officielle, l'italien a surtout sa place dans les textes écrits fédéraux, mais trop peu dans la communication orale. On ne parle italien au Parlement que pour des sujets marginaux. Au sein de l'administration fédérale, les compétences en italien sont jugées insuffisantes. Et c'est surtout à l'école qu'il y a un problème. L'italien n'est souvent proposé que comme matière facultative ou à option. Dans le domaine culturel, hors du Tessin, les films en italien, quand il y en a, ont très peu de spectateurs. Co-président de l'intergroupe parlementaire Italianita, Marco Romano tire la sonnette d'alarme du plurilinguisme suisse.
On constate un grand engagement institutionnel Mais aujourd'hui, la Suisse a un problème avec son plurilinguisme. Ça touche pas seulement l'italien, ça touche aussi le français. Le risque d'avoir un pays avec trois régions linguistiques qui ne sont plus capables de parler entre eux et une nouvelle génération qui ne comprend pas réellement la plus-value du plurilinguisme est réelle.
Voilà, c'était des explications de notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Les Suisses voteront une deuxième fois sur les moyens de lutte contre la pandémie et ses effets collatéraux.
Et oui, le 13 juin, 60% des votants avaient accepté la loi Covid dans sa première version. Le 28 novembre prochain, ces mêmes votants doivent dire s'ils soutiennent les adaptations de la loi, comme le certificat et les prolongations des aides, ou s'ils suivent plutôt les recommandations des référendaires. Les Amis de la Constitution et d'autres comités affirment que la loi Covid adaptée est inutile et discriminatoire. Les enjeux du scrutin loi Covid 2 avec notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
La loi Covid soumise au peuple le 28 novembre comprend une dizaine d'adaptations concernant les aides financières aux indépendants, ce qu'on appelle les cas de rigueur, l'extension des RHT, les soutiens à la culture, au sport, à l'accueil extra-familial, aux radios et télévisions privées. Des mesures à durée limitée, mais susceptibles d'être prolongées, tout cela ne pose pas de problème. Ce qui fait débat, ce sont les articles de la loi qui servent de base au certificat Covid et au tracing. Mais un non, le 28 novembre, c'est un non à l'ensemble du paquet. Attention, prévient le président de la Confédération, Guy Parmelin.
Ce serait une erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain en votant non à la loi Covid-19. Ce référendum offre aussi une occasion au peuple d'exprimer sa solidarité en soutenant les mesures prévues par la loi.
Les Amis de la Constitution ont fait aboutir le référendum avec le nombre record de 187 000 signatures, selon leurs chiffres. La chancellerie fédérale s'est contentée de constater que les 50 000 nécessaires étaient valables. Les référendaires dénoncent une division de la société provoquée par l'introduction du certificat Covid. La porte-parole romande des Amis de la Constitution, Michel Caillé.
Cette loi Covid, c'est-à-dire surtout certains articles, notamment le certificat sanitaire, est discriminatoire puisque le fait de ne pas disposer de ce certificat ne donne pas la possibilité à un certain nombre de citoyens d'exercer leurs droits fondamentaux. Si vous prenez simplement les étudiants, sans certificat sanitaire, ils ne peuvent plus avoir accès à leur formation. Et ça, c'est tout à fait contraire au droit constitutionnel à avoir une formation, justement.
Werner Boxler, un autre porte-parole des Amis de la Constitution, utilise un terme encore plus fort, celui d'apartheid.
Quand on ne peut pas exercer les droits fondamentaux constitutionnels. Si on est exclu de certains lieux, on peut parler d'apartheid dans le sens là. C'est discriminatoire parce que ça exclut une partie de la population de pouvoir accéder à certains lieux publics, aux restaurants, aux lieux culturels et aussi à des événements de grande affluence.
Le certificat, accessible à tous, n'est pas un outil qui exclut, rétorque le ministre de la Santé Alain Berset.
Le certificat, en fait, pour un temps et un temps qui sera aussi limité que possible. Et dans l'intervalle, le certificat est accessible à toutes et à tous. C'est pas un certificat qui exclut. On peut y accéder par différentes manières. Pour celles et ceux qui ont le statut de personne guérie, eh bien on peut l'avoir. Pour celles et ceux qui font le pas de la vaccination, on peut l'avoir. Et pour celles et ceux qui ne veulent ni l'un ni l'autre, on peut se tester et l'avoir également.
Le certificat ne permet-il pas de retrouver des libertés? L'UDC Jean-Luc Adore.
C'est exactement l'inverse. Le pass Covid, c'est un outil de discrimination et de contrôle social, parce qu'il faut bien voir qu'il y a son corollaire aussi, qui est la base légale pour les applications de traçage. Donc on veut fracturer la société en deux. L'objectif, c'est de pourrir la vie des Suisses de telle manière qu'ils voient plus que le vaccin comme unique issue.
À l'exception de l'UDC, tous les partis représentés au Parlement fédéral se sont coalisés pour défendre la loi Covid et ce sont les présidents eux-mêmes qui montent au front, le coprésident du PS, Cédric Vermouth.
Si on aura un non le 28 novembre, on aura probablement la seule possibilité pour éviter une quatrième vague, dans le cas où ça serait un lockdown, on aura toute une série de mesures économiques que nous ne pourrions pas continuer en 2022, notamment pour le sport et la culture, et ça nous semble trop dangereux.
À moins d'un mois du scrutin, les sondages donnent le oui à la loi nettement devant, entre 61 et 69%, contre 30 à 36% de non. Le scrutin du 28 novembre sera aussi un vote de confiance ou de défiance envers le Conseil fédéral et le Parlement, le président du centre, Gerhard Pfister.
Dans une crise, c'est le devoir d'un parti qui défend les valeurs de la Suisse de renforcer la confiance du peuple pour les autorités, pour le Conseil fédéral. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer, mais je constate que la Suisse a réussi de manager pas si mal pendant cette pandémie.
Sachez encore que le Parlement a très largement adopté en juin dernier la version de la loi Covid soumise au peuple le 28 novembre. 169 oui, 13 non et 13 abstentions au Conseil national. 44 oui, 0 non et 0 abstention au Conseil des États.
Et voilà, c'était un dossier préparé par notre correspondant à Berne, Serge Jubin, et la population devra donc se prononcer le 28 novembre prochain.
À l'étranger, des guides népalais ont fait une importante découverte.
Et oui, il pourrait s'agir des corps des trois alpinistes français portés disparus depuis le 26 octobre après une avalanche dans la région de l'Everest qui ont été peut-être trouvés au Népal justement. Selon la police locale, ils ont été découverts à peu près dans la même zone où étaient conduites les recherches. En revanche, le chef de l'équipe de secours se refuse pour l'instant à confirmer s'il s'agit bel et bien des trois jeunes alpinistes français portés disparus. Et puis l'Australie ne compte pas se passer du charbon. Le gouvernement a affirmé aujourd'hui qu'il continuera à en vendre pendant des décennies. Ceci après avoir rejeté un accord visant à abandonner progressivement ce combustible fossile polluant afin de limiter le changement climatique. L'Australie a cependant dévoilé le mois dernier un objectif de neutralité carbone pour 2050. Et d'ailleurs, une quarantaine de pays se sont engagés à sortir du charbon dans les décennies à venir lors de la conférence sur le climat COP26 de Glasgow. Un engagement qui n'a pas été signé par l'Australie, ni la Chine et les États-Unis qui font partie des plus grands consommateurs de charbon au monde. Et puis le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kazimi est sorti indemne d'une tentative d'assassinat au moyen d'un drone piégé qui a visé hier avant l'aube sa résidence à Bagdad. Il s'agit d'une nouvelle escalade dans la crise que traverse l'Irak. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Iran, les deux puissances agissant en Irak, ont condamné cette attaque, la première du genre contre la résidence de Mustafa Al-Kazimi située dans la zone verte, un périmètre ultra protégé qui abrite également l'ambassade des États-Unis. Et place au sport, au football, le Lausanne Sport amène de l'expérience dans sa défense. Lanterne rouge de Super League, le club vaudois a annoncé ce matin avoir engagé Lamine Koné. Ce joueur franco-ivoirien, âgé de 32 ans, était sans contrat depuis l'été, mais son CV est étoffé. Né à Paris, le défenseur central a été formé à Châteauroux avant de passer par Lorient, Sunderland en Angleterre et Strasbourg. Durant sa carrière, il a disputé plus de 180 matchs en première division française et 45 rencontres de première ligue de l'autre côté de la Manche.
En basket, le BBC Montéchablais a concédé une défaite frustrante ce week-end.
Et oui, opposé samedi après-midi au BBC Nyon à la salle d'Urposieux, les Sangliers se devaient de l'emporter pour débloquer leur compteur de victoire cette saison. Durant près de 30 minutes, le public montaisan a cru fêter le premier succès de l'exercice. Mais les Vaudois ont renversé la vapeur dans l'ultime période pour aller chercher la prolongation. Dans le temps additionnel, les visiteurs ont fait parler leur adresse pour infliger aux montaisans leur sixième défaite consécutive. Une réalité frustrante pour le BBC Montéchablais qui a montré et un tout autre visage que celui des précédentes rencontres, comme l'explique son entraîneur Patrick Pembele.
Honnêtement, je vous remercie de le souligner. Aujourd'hui, je voulais juste la victoire, donc je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'il y a eu des très belles choses comparées à avant. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à le voir maintenant, mais vous avez raison.
Une défaite très frustrante, ça se sent dans votre voix. Un élément que j'ai envie de mettre en avant, c'est le match de Clayton Lesane. Il a été juste fantastique aujourd'hui.
Oui, il a fait une très bonne fin de deuxième mi-temps et de prolongation. Montrer beaucoup de courage, j'espère que ça va continuer et c'est aussi un point qui fait plaisir.
C'est une situation délicate avec ces six défaites en début de championnat. Comment vit le groupe? Comment vous sentez le vestiaire?
Honnêtement, avant ça, on dira que tout était explicable. Maintenant, c'est une défaite qui fait très très mal et je me réjouis de les voir la semaine prochaine. Mais avant, jusque cela, tout était bon, tout allait bien.
Prochain match, déplacement à Boncourt. Sur quel point travailler pour aller chercher cette première victoire?
On va devoir faire une meilleure circulation de balles quand même. Hein. On est beaucoup sur des exploits individuels par moment, alors on trouve bien les personnes. Un peu trouver une meilleure relation intérieure-extérieure.
Voilà, c'était des propos recueillis par Julien Massy. Le BBC Montéchablais enchaîne donc un sixième revers consécutif en championnat. Il reste lanterne rouge avant de se déplacer sur le terrain de Boncourt le week-end prochain.
Le hockey sur glace suisse faisait sa promotion hier dans de nombreuses patinoires du pays.
Et comme chaque année, durant la trêve internationale de novembre, la fédération a mis sur pied le Swiss Ice Hockey Day. En d'autres termes, des dizaines de joueurs professionnels sont allés à la rencontre de la relève. Et dans la région, Lesins, Villars et Montet ont joué le jeu. Les jeunes pousses de ces clubs ont ainsi pu griffer la glace aux côtés d'éléments de Lausanne, de Sierre ou encore de Viège. Dans la cité bavalaisanne, cette journée a notamment été l'occasion pour Mathieu Marais de revenir à ses premiers amours. Formé au HC Montéchablais, le défenseur du SC Langenthal estime que de telles actions sont nécessaires. Il aurait d'ailleurs aimé en profiter à ses débuts. Les explications de Mathieu Marais.
Ça donne un objectif en tant que jeune de pouvoir côtoyer des joueurs professionnels. C'est vrai que quand j'avais été plus jeune, j'aurais bien voulu pouvoir en profiter. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais je crois que maintenant, avec les années, ça se fait de plus en plus. Donc je crois que c'est important pour la jeunesse de prendre exemple sur ça. Et puis aller de l'avant comme ça, c'est que du positif.
Également présent à Monté hier, Goran Bezina a aussi donné de sa personne. À 41 ans, le défenseur du HCCR sait à quel point le travail avec la relève est important. Il est ainsi très au fait de la manière dont évoluent les mouvements juniors valaisans de hockey sur glace. Les précisions de Goran Bezina.
Je vois comment ça évolue, je pense que c'est quelque chose qui me préoccupe aussi. On ne sait pas ce qui va arriver ces prochaines années, que ce soit avec le HCCR, avec les nouveaux investisseurs, avec si un jour on réussit à tout regrouper, on va dire sous le même toit, je pense que c'est quand même la direction dans laquelle on doit y aller. Monté fait partie du HC Valais Valise. Et si on veut que le Valais devienne, on va dire, c'est déjà un canton de hockey, mais si on veut avoir une bonne équipe de Liga et avoir un mouvement junior qui suive le chemin, là, on est obligé de regrouper. On est obligé de regrouper les meilleurs jeunes au même endroit. On doit essayer de regrouper ceux qui ne veulent pas suivre, tant pis, mais on ne peut plus attendre sur tous les clubs. Pour qu'ils soient dans le train, quoi. Il faut commencer à le faire. Et ceux qui veulent rejoindre ce mouvement, qu'ils le rejoignent. Et ceux qui ne veulent pas, bah, tant pis pour eux, quoi.
C'était des propos recueillis par Julien Traxel. Au terme de cette journée, Goran Bezina, Mathieu Marais et les 5 autres joueurs présents à Monté se sont tous prêtés au jeu des photos et des autographes.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Evosun à Massonger, borne de recharge solaire photovoltaïque et toiture, votre partenaire pour faire le plein d'énergie. Devis sans engagement sur evosun.ch.
Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi avec un mercure qui indiquera 10 degrés en pleine, 5 à 1000 mètres et moins 1 à 2000 mètres. Pour demain, le temps sera bien ensoleillé, mis à part le matin où quelques bancs de stratus sont possibles sur la Riviera, jusque vers 1200 mètres d'altitude, voire également dans le Chablais. Il va faire de 0 à 8 en pleine, de moins 2 à 6 à 1000 mètres et de moins 2 à 8 degrés à 2000 mètres.